Bonjour Alice Zeniter.
Bonjour.
Je suis très très contente de vous retrouver, je vous le disais à l'instant, et cette fois, vous venez nous parler donc de votre dernière écriture, Toute une moitié du monde, qui sort aux éditions Flammarion. Je dis écriture parce que c'est difficile hein, de mettre ce récit dans une case, et tant mieux, on a envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voudriez qu'il soit dans une case? Vous l'avez déjà? Vous l'avez en tête? Comment vous le voyez, ce livre?
Moi, j'arrive pas à le qualifier. Alors évidemment, ça me... Je pense que d'une certaine manière, ça me peinerait que d'autres le qualifient de manière un peu abrupte, parce que j'ai l'impression que ça lui couperait quelque chose et que ça le pousserait. C'est ce que j'écris un peu dans le prologue. Ça le pousserait à mal se comporter si on essaye de le faire tenir dans une case précise. Il échouera. Il est pas fait pour être tenu dans cette case-là. Donc, il tient un peu. Il tient un peu à plein de types de livres à la fois. Et c'est vrai que je me suis souvenue, en écrivant ce prologue, qui essayait de le présenter, d'une interview d'un auteur anglais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Geoff Dyer, et qui écrit à la fois des nouvelles et de la non-fiction. Et à chaque fois, on le pousse à dire est-ce que c'est un roman ou pas, ce qu'il a fait. Et lui maintient le droit d'appeler un livre uniquement un livre. Il dit, j'écris des livres, arrêtez de me demander si c'est des nouvelles ou si c'est un documentaire ou c'est un livre. Et je me suis dit, voilà, celui-là, c'est ce qui me va comme étiquette, c'est un livre.
Parfait. En tout cas, il reste haletant, comme votre écriture en général. Et justement, à propos de cette façon de pouvoir mettre des cases ou pas, finalement, il prolonge un récit que vous avez entamé, j'ai l'impression, en tant que lectrice, depuis un certain temps, sur le récit lui-même, sur le livre lui-même. Et d'ailleurs, à ce propos, sur le livre, vous dites vous-même que c'est très difficile, mais c'est quelque chose qui vous passionne, d'écrire à la fois pour tout le monde et en même temps de vous singulariser. Et vous dites une très jolie chose, vous dites en fait, il faudrait que le lecteur accepte de lire autrement pour qu'on puisse écrire autrement. Donc, dans ce livre, vous signez un pacte aussi avec votre lecteur?
Oui, disons qu'il y a une démarche commune et que ce cycle, si on peut dire, de mon travail ou de mon écriture, où je me suis un peu arrêtée pour réfléchir aux récits et à l'histoire des récits, à la fabrication des récits, je l'ai vraiment commencé quand j'étais en train d'écrire Comme un empire dans un empire, et où j'avais envie de faire un roman qui sorte du schéma narratif classique, donc qui n'emmène pas du tout mes deux personnages principaux vers un déroulé de l'action attendue, avec la mise en place d'une intrigue, son point culminant, sa résolution, etc. Et pendant que je faisais ça, je me disais, ah mais en fait, je galère, pour le dire simplement, parce que je suis tout le temps en train d'essayer de réfléchir à l'horizon d'attente et à mon pacte avec les lecteurs et les lectrices. J'ai du mal à écrire parce qu'en fait, j'arrive pas à savoir si dans ce que je suis en train de construire comme forme nouvelle, il y a assez de séduction, si ça va être au contraire considéré comme une traîtrise, comme un coup bas, comme un abandon. Et donc, j'avais vraiment cette impression que, voilà, que c'était un effort commun entre lecteurs et lectrices et auteurs et autrices d'inventer. Alors, inventer est peut-être un mot un peu prétentieux parce qu'en fait, les formes nouvelles, elles existent, mais de créer davantage de formes qui sortent un peu des clous et puis de les mettre en avant dans les rayons des librairies, dans les rentrées littéraires, d'être capable d'accorder une vraie attention à ces formes-là au lieu de les considérer comme des vilains petits canards.
Dans le livre, vous écrivez « J'ai le cul entre deux chaises narratives ». Est-ce qu'après l'écriture du livre, vous avez l'impression que vous avez réussi à trouver une place un peu plus précise justement entre ces deux chaises ?
J'ai réussi déjà à identifier les deux chaises narratives entre lesquelles j'hésite et je me perds un peu. Et ça, déjà, c'est une étape qui me paraît cruciale dans mon travail d'écriture.
Alors, on a l'impression que vous êtes en même temps une chercheuse. Vous êtes vraiment un écrivain et en même temps une chercheuse sur l'écriture. C'est très agréable pour vos lecteurs de vous suivre, de voir votre progression. On sait que vous écrivez depuis vraiment très longtemps, que vous avez commencé très jeune. Dans ce livre, on découvre que finalement, l'expérience de l'écriture correspondait aussi à une autre expérience qui était de sortir même de vous-même, de votre propre récit de vie, puisque vous avez décidé un jour de vous couper les cheveux très courts, de vous faire appeler Nicolas pour voir si vous pouviez passer incognito à l'école. Et on ne peut pas s'empêcher sur cette histoire de penser à Akira Mitsubayashi, qui dit « Mais moi, j'écris en français parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que je n'avais pas choisi d'être japonais, d'écrire en japonais, de parler le japonais, et que ça ne me va pas forcément. Et donc, Alice Zeniter, on a l'impression que finalement, depuis toujours, vous avez en tête le principe de l'expérience et du recommencement ou du commencement de quelque chose pour l'expérience du récit.
En fait, la fiction, c'est... En effet, pour moi, c'est depuis toujours une possibilité d'exploration qui dépasse, en fait, de très loin les limites qui me sont données par... par les situations concrètes de ma vie. Et ce que je raconte dans le livre, c'est notamment en fait le statut de mineur qui est le mien, puisque je suis enfant quand je commence à lire et à écrire, et qui va donc avec un certain nombre de limitations, le fait de devoir demander en permanence l'autorisation des adultes. Je suis une enfant qui grandit à la campagne aussi, donc ça veut dire loin de certaines attractions culturelles, sociales, etc. Il faut qu'on m'emmène quelque part pour que je puisse faire des choses, donc il y a cette impression d'immobilité, d'enfermement. J'ai un petit corps qui me permet pas d'atteindre les étagères du haut, j'ai pas le droit de toucher à certains outils, j'ai pas... Et lire et écrire des fictions, c'était me déployer dans des centaines d'autres existences qui étaient, elles n'étaient pas limitées ou pas de la même manière. C'était pouvoir voyager d'un pays à l'autre, c'était pouvoir traverser des aventures, voler des chevaux, galoper pendant toute la nuit. Et la fiction, du coup, m'arrachait à ce qui aurait pu me peser. À cette enfance qui aurait pu m'écraser et me permettait d'avoir d'autres horizons. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'elle me permettait ces autres horizons quand je m'identifiais au personnage homme. Parce que finalement, tous les personnages qui étaient libres, actifs, aventureux, géniaux, sauveteurs, etc., c'était les hommes. Et que toute ma vie de lectrice, j'ai un peu évité de m'identifier au personnage de femme parce qu'elles, elles étaient... enlevés, séquestrés, suicidés, frappés, etc., à languis d'amour jusqu'à en mourir. Et j'avais pas envie de ça. Moi, je lisais pour ne plus être tout ça, pour ne plus être enfermée, faible, dominée, etc., ballottée par la volonté des puissants. Donc les personnages de femmes qu'on m'offrait ne m'allaient pas du tout.
Et d'ailleurs, on vous les offre, et c'est ce que vous expliquez. Vous expliquez que l'enseignement, enfin, le monde entier, finalement, s'en réfère à une bibliothèque classique dans laquelle on ne se pose, sur laquelle on ne se pose plus la question de savoir quelle est la place de telle ou telle héroïne ou héros. On l'a posée une fois pour toutes. Et vous écrivez que finalement, vous vous interrogez souvent sur la personne que vous auriez été si vous aviez lu autre chose. Et d'ailleurs, vous dites cette très jolie chose, vous dites parfois, j'entrevois cette personne, cette autre personne, cette autre lectrice que j'aurais pu être. Et parfois, je me sens seule aussi parce que cette autre lectrice, ces autres lectrices que j'aurais pu être m'intéressent beaucoup. Donc, vous racontez aussi comment la fiction nous façonne, nous pousse à réagir. Et ça, est-ce que c'est difficile de s'en défaire pour écrire?
Alors... Oui, c'est ça. C'est pas uniquement ces autres lectrices que j'aurais pu être qui me manquent, ces autres autrices et ces autres femmes, en fait, ces autres manières d'être femme. Je sais pas comment j'aurais pu grandir et évoluer en tant que femme si j'avais trouvé d'autres modèles dans mes lectures. Et c'est quelque chose qui est assez... tristement et drôlement absurde quand on y pense. Par exemple, j'ai passé des années en études littéraires à étudier Madame Bovary. Madame Bovary, c'est en grande partie l'histoire d'une femme qui est tellement, tellement marquée par la lecture des romances qu'elle dévore, qu'elle va se projeter dans des histoires d'amour un peu nulles, un peu ratées, un peu parce qu'elle s'imagine que la vie doit être ce long frisson à l'odeur de lilas qu'elle a trouvé dans ses mauvais livres, dans ses romans d'amour un peu à dessous. Et donc on étudie ça, on étudie ce que ces romans d'amour font à Madame Bovary, mais quand après on dit, mais qu'est-ce que moi, si on fait une mise en abîme, qu'est-ce que moi, la fréquentation de ces femmes adultères et suicidées, ou adultères et tuées, adultères et chassées, qu'est-ce que moi, ça m'a fait en tant que lectrice, ça c'est pas une question qui a sa place dans les études littéraires. C'est-à-dire qu'on peut étudier ce que les livres font à Emma Bovary, mais on ne peut pas étudier ce que Emma Bovary fait à Alice. Et moi, c'était une question que j'avais envie de poser justement dans toute une moitié du monde, de dire ça a forcément fait quelque chose. Ça a forcément fait quelque chose, le fait que le désir sexuel des femmes que j'ai rencontrées dans le pays de la fiction pendant 10 ans, 15 ans, a toujours été puni par une mort violente. Ça m'a forcément amenée à penser le monde d'une certaine manière. Le fait qu'il n'y ait pas de sexualité choisie pour les personnages féminins, comme le dit Maggie Nelson dans Les Argonautes, et que pour pouvoir parler d'une sexualité féminine, il faudrait un jour pouvoir étudier un groupe témoin qui n'aurait pas rencontré comme première représentation de la sexualité féminine une contrainte, des gestes forcés, etc., un désir des hommes qui prend systématiquement le pas sur le désir des femmes. Et ce groupe témoin, il n'existe pas, puisque il faudrait se préserver de quoi ? De 95% du corpus de la littérature ? C'est des questions qui sont fascinantes, qui sont vertigineuses.
La question centrale, est-ce que ça reste pour vous le désir des femmes finalement ? Est-ce que c'est un peu ça le problème ? D'ailleurs, vous dites le désir des femmes, parce que les femmes, c'est un groupe, hein, bien sûr, il n'y a pas de singularité à l'intérieur de ce groupe. Donc, est-ce que finalement, c'est ça qui pose problème ? Vous dites aussi dans ce livre que le héros, il a une action à mener, un conflit à régler. En cours de route, il va rencontrer une femme qu'il va aimer ou simplement il va coucher avec elle. Et que l'héroïne, c'est l'inverse. Elle commence par aimer ou coucher avec un homme. Et puis, éventuellement, c'est le conflit va naître de ça. C'est Toni Morrison, je crois, qui écrit cela. En tout cas, vous reprenez...
Je fais la comparaison entre les comédies romantiques ou les films de campus dans lesquels les personnages sont majoritairement féminins et les films d'action lesquels les personnages sont majoritairement masculins et donc la différente articulation entre le conflit et l'amour. Et non, ce que Toni Morrison, elle dit, c'est qu'il y a très peu... Elle parle du roman Sula qu'elle a écrit dans les années 70. Et elle dit qu'il n'y a pas de roman sur les amitiés féminines, parce que c'est des relations qu'on a toujours secondarisées, c'est-à-dire on les considère comme quelque chose qu'on a en attente d'un homme, à défaut d'avoir mieux. En fait, la relation qui est valorisée, c'est celle d'un homme et d'une femme. Et donc on est avec ses copines, on est avec ses amis, parce que il n'y a pas d'homme qui s'intéresse à nous parce qu'on ne l'a pas encore trouvé. Et donc, pour elle, le fait de raconter cette amitié entre Nelly et Sula dans le roman, c'est quelque chose de quasiment révolutionnaire. Parce que ça veut dire, regardez, ça a de l'importance. Finalement, plus que les hommes qui traversent la vie de ses filles, les amants, les mariages, etc., la relation centrale, la relation bouleversante, c'est celle de ces deux petites filles, puis jeune femme, puis femme plus âgée. Et ce que dit Morrison, ce qu'elle dit généralement avec cette calme assurance pour beaucoup de ses livres, c'est j'ai écrit ce livre-là parce que je voulais le lire et il n'existait pas.
Donc, je reprends cette question, pardon, sur laquelle j'ai mis un peu de temps autour. C'est le désir des femmes qui est quoi ? Effrayant, gênant, encombrant ?
Qui est manquant, en fait, principalement. C'est-à-dire. Alors, je pense parce que beaucoup des livres du corpus, un peu du corpus canonique, du corpus valorisé dans lequel je raconte avoir grandi jusqu'à assez tard, de toute façon, c'est un corpus qui est écrit par des hommes. Donc, en fait, l'idée de mettre en scène un désir féminin hétérosexuel et de considérer les hommes comme désirables, oui, franchement, il y a quelque chose qui les gêne. Ces auteurs masculins, le fait de décrire des personnages masculins qui seraient des objets de désir, c'est compliqué. En tout cas, c'est très rare que ça passe la page. Et ce que je raconte dans Toute une moitié du monde, c'est que, par conséquent, moi, les seuls livres où j'avais l'impression de trouver un miroir ou une parenté avec mon désir, c'était les livres d'écrivains hommes homosexuels, qui, eux, décrivaient des hommes qui étaient désirables, écrivaient sur un désir des hommes, et donc notamment les livres de Jean Genet, où il y avait des pages comme ça absolument merveilleuses sur le désir d'être étreint par la splendeur d'un homme de pierre aux angles nets, et où je me dis, voilà, c'est ça, ce manque, ce trouble, c'est cette chose qui me perturbe à l'arrivée du printemps, c'est exactement ça, mais que je ne trouve pas du tout dans d'autres livres, même dans les romans qui sont censés raconter ça, comme par exemple Lady Chatterley, dont je parle un peu brièvement dans Toute une moitié du monde. Lady Chatterley, qui est censée raconter l'épanouissement de cette femme délaissée par son mari handicapé qui découvre sa sexualité dans les bras du garde-chasse, ce qui fait vraiment mauvais résumé de soft porn quand on le dit comme ça. Et en fait, Lady Chatterley, ça parle surtout d'une femme qui s'aperçoit, de ce que crée en elle le fait d'être désirée par un homme. Ça parle très très peu du désir de Constance elle-même. Les pages les plus crues de Lady Chatterley, elles sont ces tirades comme ça avec une moitié d'argot déployé par le garde-chasse sur le corps de la femme, le cul de la femme, et encore une fois sur le regard de l'homme sur la femme. Il y a très peu de passages où on dit que elle le désire de cette manière.
Sur ce sujet-là, votre livre est presque choral. D'ailleurs, vous dites parfois « je pique des phrases à d'autres auteurs ». Vous avez une vision de la littérature comme ça, comme un champ où le sujet est plus important que l'écrivain, dans le sens de « partageons ce que nous faisons tous ensemble ».
Oui, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose... que finalement, la littérature est une création commune et une agglomération des textes qui se répondent, qui se nourrissent en écho et qui est plus grande que l'effort individuel. Alors, il y a peut-être une représentation quasi religieuse pour moi dans cette manière de voir, mais oui, les textes... C'est un peu comme le mythe du self-made man. Il n'y a pas de texte qui apparaît ex nihilo et qui réinventerait le langage, qui emprunterait pas aux références précédentes, qui se construirait pas dans un système de réponse, d'emprunt et parfois aussi tout simplement de pillage. Et la littérature, elle est faite de ces circulations.
Dans ce livre, il y a donc plusieurs citations et vous vous attachez aussi à cette question de la difficulté de se décrire comme écrivain, comme écrivaine ou comme auteur, en disant que c'est quand même un temps pour y parvenir et ça fait partie de ce que vous racontez sur cette ambiance générale, puisqu'après, à un moment donné dans votre livre, on bascule sur l'ambiance des autres écrivains, en fait, du milieu de l'édition, qui ressemble à beaucoup d'autres milieux, qui n'est pas exempt d'un certain machisme, mais avec un prisme très particulier qui est intéressant, en fait, sur lequel vous dites l'homme écrivain représente l'effort, l'exploit et a le droit finalement d'avoir une image très bucovienne sur ce côté je bois des litres d'alcool, je fume des clopes, et l'autrice, elle doit être belle avant tout. Voilà. Vous penchez sur cette difficulté de trouver sa place, alors.
Oui, c'est-à-dire que j'étudie ce que Julia Carninon, qui est elle aussi romancière et théoricienne de la littérature, appelle la parade virile, et donc une mise en avant par certains auteurs, donc elle dans le cadre de ses études plutôt les auteurs américains du début du XXe siècle, mais cette insistance à vouloir montrer qu'un homme de lettres est avant tout un homme. Et donc, à lier l'écriture à un tour de force. Donc, évidemment, on pense à Hemingway avec ses récits de « j'écris debout »,« j'use 7 crayons, 8 crayons par jour »,« je traverse des lignes de feu », etc. « J'écris avec une balle dans la jambe », tout ce genre, ce genre de récits qui placent la littérature du côté de l'exploit et qui, en fait, existent encore aujourd'hui. Et je montre que dans des entretiens bien plus contemporains que peuvent l'être ceux d'Hemingway, on retrouve en fait le même mythe autour de l'auteur vrai mec de la littérature, quelque chose qui tient donc de l'épreuve du feu, de la consommation d'alcool très forte, de l'activité physique extraordinaire, de l'écriture contre un cycle de vie bien réglé, c'est-à-dire contre le sommeil, on écrit au milieu de la nuit, on écrit pendant des heures sans s'arrêter, c'est presque on écrit sans respirer, même si ça peut faire un peu bien. Et face à cette représentation de l'auteur comme vrai homme, grand homme, évidemment, les autrices sont défavorisées, parce qu'en fait, si elles s'identifient à ça, elles sortent de toutes les injonctions sociales qui sont faites aux femmes, donc en fait, elles sont des monstruosités. Et si elles restent éloignées de ça, alors elles restent éloignées d'un mythe de la littérature. Donc elles ne peuvent pas être des vraies artistes, des vraies créatrices. Elles sont des brodeuses qui font du point de croix quand les hommes, eux, gravissent l'Everest, qui est le grand livre qu'ils ont à écrire. Et donc ça joue forcément en leur défaveur. Et ces questions de représentation, elles sont importantes.
Est-ce que ça change? Est-ce que les étudiants que vous rencontrez aujourd'hui, quand vous parlez de vos livres et que vous vous déplacez, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose bouge sur ces questions-là?
Chez les jeunes générations, absolument. Chez les étudiants et les étudiantes, chez les journalistes aussi, dans la manière d'accueillir certains livres, je sens que les lignes bougent. Il faudrait ensuite que les tenants et les tenantes du pouvoir, si on peut appeler ça un pouvoir, ceux qui ont le droit de décerner un peu les lauriers de ce qui est ou non de la littérature, de dire voilà, ça c'est un grand livre, ça c'est un grand auteur ou une grande autrice, il faudrait que là aussi ça change un peu plus, et c'est pas le cas. Bon, on sait par exemple que dans le jury du Goncourt, il n'y a aucune parité, et que pour expliquer cette parité, les membres actuels ont expliqué que bah, en fait c'était trop compliqué de trouver des femmes qui soient capables de fournir cette quantité de travail, et puis on peut pas trouver des femmes qui auraient toutes les qualités requises pour être jurées Goncourt. Bon, bah, du coup, ce genre de choses, ça fait que dans les lieux où sont prises des décisions très importantes, parce que les grands prix littéraires de l'automne, ça donne en fait quand même une certaine reconnaissance, et puis une immense liberté financière derrière pour les auteurs et les autrices. Donc c'est pas juste un hocher de vanité. Il y a quelque chose d'important en fait dans ces prix, quoi qu'on en pense. Et ben dans ces lieux-là, le changement il s'est pas tout à fait opéré, et donc l'image des grands mecs, des vrais mecs de la littérature, elle continue à être l'image du vrai artiste. Et les femmes, elles, quand elles écrivent, comme le disait Anne-Marie Gara, sont toujours frappées de la suspicion d'écrire des livres de bonnes femmes.
Oui, d'ailleurs sur ces questions-là, vous faites le pont en fait entre cette image de laquelle les femmes ont du mal à se défaire, y compris dans l'écriture du care. C'est-à-dire que finalement, les histoires de femmes ont toujours vocation à quelque chose de social.
Oui, alors ça, c'est une question qui est très, très vaste, qui se prend par, énormément d'angles. Il y a la question globale du fait que la fiction est considérée depuis les années 90 et les études cognitives comme un apprentissage du monde social. C'est-à-dire qu'il y a une revalorisation de notre fréquentation de la fiction à ce moment-là, en disant qu'elle nous apprend, en fait, elle développe en nous l'empathie, elle nous apprend à reconnaître les réactions qu'ont les gens face à telle ou telle réaction, et donc en fait elle est extrêmement bénéfique, et notamment chez les enfants qui vont apprendre à travers les histoires, les dessins animés, les livres de contes, ce que vous voulez, à développer leur compréhension du monde humain. Et donc cette idée que la fiction, finalement, la fiction c'est du care, la fiction c'est porter une attention aux autres, une attention accrue, essayer de faire fonctionner mieux un groupe humain. Une des questions que je me pose, c'est est-ce que c'est pour ça que de plus en plus la lecture des romans apparaît aujourd'hui comme quelque chose qui est réservé aux femmes, puisqu'on sait que 7 lecteurs de romans sur 10 sont en fait des lectrices, et que ça arrive tout le temps dans les festivals, dans les salons du livre, que des hommes déclarent, enfin se plantent devant ma table, regardent ce que je fais et me disent ben en fait je lis pas de romans, et me le disent un peu avec fierté, quoi, de la manière dont on dit je suis un homme, un vrai, quoi, donc je lis pas de romans. Donc il y a cette question là évidemment. Il y a la question de quelles sont les relations racontées à l'intérieur de ces fictions qui parlent de personnages féminins. Donc on a parlé des amitiés féminines, mais ça peut aussi être des relations parents-enfants, ça peut être des relations de groupe d'amis. Enfin, il y a moins de conflits frontaux et armés que dans les histoires avec des personnages masculins, puisque comme le dit Toni Morrison, les femmes ont tendance à utiliser les armes des faibles, c'est-à-dire à fouiner partout et à colporter des ragots. Et donc ces relations-là, comme elles sont pas non plus valorisées, on a l'impression que c'est quelque chose de piètre, que ça fait pas de bonnes histoires, que personne n'a envie de lire ça, personne n'a envie de lire l'histoire d'une femme qui s'occuperait de quelqu'un d'autre avec les répétitions que ça implique, avec il y a vraiment quelque chose qui tient du « on n'est pas prêt », tout simplement. On n'est pas prêt à ce genre de fiction. On n'est pas prêt à les accepter.
Pardon, je vous ai coupé.
Non, c'est... allez-y.
Est-ce que au cinéma, on commence à balbutier plus facilement qu'en littérature une approche de ce genre de sujet autrement ?
Je ne sais pas si le cinéma est plus aidé que la littérature sur ces questions. Au contraire, je dirais que la littérature a probablement toujours plus été un terrain d'expérience pour des raisons logistiques, économiques, pour la simple et bonne raison qu'il est possible de faire un livre sans avoir ramassé, récolté les avis favorables et les aides financières de plusieurs institutions qui permettent que l'œuvre existe. Alors qu'en cinéma, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas convaincu des financiers, un certain nombre de financiers, le film ne verra jamais le jour. Et donc, il n'y a rien qui prouve que votre idée était bonne. En littérature, si j'ai envie de faire quelque chose qui explose tous les codes établis, on pourra me dire que ce n'est pas du tout une bonne idée. Mais si je réussis à dégager assez de temps et une liberté économique assez grande pour prendre le temps d'écrire ce livre, mon manuscrit ou mon tapuscrit dira que cette chose était possible. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me donne 2,5 millions pour produire l'œuvre qui prouve que c'est possible. Donc la littérature est un champ d'expérimentation plus simple, finalement, mais qui a aussi tendance à toucher moins de personnes.
Alors, vous parlez des tests. Dans ce livre, vous passez du temps à attirer notre attention. Je vais y arriver, excusez-moi, sur les tests de Bechdel, le test de moralité de Hayes, et puis le test de la lampe. Et on est quand même entre le rire et l'effroi avec ces tests qui sont mis en route. Est-ce que vous pensez qu'on peut compter dessus pour justement changer notre rapport sociétal à l'œuvre en général?
Je crois qu'il ne faut pas tout attendre de ce genre de choses. Et puis, c'est d'ailleurs pas des outils qui ont été créés dans le but de provoquer des changements. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le test de Bechdel aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient d'un strip de l'essentiel des Gouines à suivre d'Alison Bechdel, qui est juste une anecdote vécue qu'elle raconte, dans laquelle une de ses amies lui dit « Moi, je ne vais plus au cinéma pour voir un film s'il n'y a pas une scène avec deux femmes ensemble qui parlent d'autre chose que d'un homme, parce que ça, c'est plus possible. » Et qui lui dit « Et dans Alien, j'ai failli sortir, mais finalement, il y a quand même une scène où elle parle du monstre, donc c'est génial. » Et c'est juste ça. Et en fait, des lecteurs et des lectrices ont repris cette chose après en l'appelant le test de Bechdel ou le test de Wallace Bechdel, puisque l'ami en question dans le strip, c'est Liz Wallace. Mais c'est même pas un outil qui a été fabriqué pour être utilisé dans toutes les situations. En revanche, c'est quelque chose qui raconte un ras-le-bol qui est réel d'une partie du lectorat ou d'une partie du public. Un refus, en fait, à un moment donné, le fait de plus en pouvoir de voir certaines œuvres. Moi, j'ai une amie qui me racontait qu'il n'y a pas longtemps, elle était au théâtre en train de regarder le dernier spectacle de Julien Gosselin, qui est l'adaptation de cette pièce russe dont j'ai oublié le nom, et où tout à coup, elle s'est figée en se disant « Je sais où ça va. Ça va être l'histoire d'une femme adultère qui meurt. Et je ne veux plus voir ça. En fait, je ne peux plus voir ça. » Et donc, elle est allée discrètement sur son téléphone. Elle a regardé le résumé de la pièce. Elle a vu qu'en effet, c'était ça. Et elle est partie. Parce qu'à un moment donné, ces représentations, elles agissent sur nous, forcément. Et donc, on peut refuser de se laisser remplir et façonner par la répétition de la même chose. Et donc, le test de Bechdel, le test de la lampe, ce genre de choses, ça permet juste, de déclencher peut-être un peu plus rapidement ce type de réflexe et d'aller regarder plus rapidement ailleurs. Parce que c'est ça l'idée. Si je dis, en fait, je sors de la salle à partir du moment où on me raconte encore l'histoire d'une femme adultère qui va se faire tuer ou qui va se suicider, ça veut dire aussi, je laisse de la place pour aller écouter ou voir d'autres histoires. Et le fait de se poser la question très tôt et en des termes très simples, ça permet de lancer plus vite la machine, tout simplement.
Est-ce que ça rejoint aussi ce que vous évoquez à un moment donné dans votre livre, le principe de finalement de se retrouver dans un groupe sans vraiment le formaliser, mais d'appartenir à une certaine catégorie de gens qui s'interrogent autant sur le mot que sur le sens, puisque vous avez ces temps d'écriture dans votre livre, dans lesquels vous expliquez un mot tout seul peut manquer de, des éléments que je veux y mettre, par exemple condoléances, manque de chaleur. Donc vous citez d'autres auteurs à cet endroit-là et vous dites bah, alors une phrase, ce serait un endroit dans lequel on peut permettre aux mots de respirer entre eux. Et donc ce principe finalement, ce test de Bechdel ou de la lampe, est-ce que c'est une façon de prendre conscience ensemble à plusieurs de la façon dont on peut à nouveau, et comme on le disait au début de cet entretien, peut-être construire autrement, écrire autrement, penser autrement. Et à plusieurs, on est plus fort, qui est encore une chose que nous recoupons avec cette interview dans laquelle vous dites l'écriture, elle se fait à plusieurs. Et donc, est-ce que ça participe de cette écriture du monde, finalement, à plusieurs, que plusieurs personnes réagissent à ce test? Comme si la fiction rentrait dans la réalité et inversement, que nous puissions réagir ensemble.
La question, elle balaie tellement plusieurs, plusieurs points du livre que j'ai du mal à faire une réponse dans laquelle je pourrais les regrouper, les retisser ensemble. Ou plutôt, j'ai l'impression que si je commence, je vais exploser et partir dans toutes les directions à la fois.
Allez-y, on a le temps. Au contraire, Alice Anita, ce qu'on a envie, c'est de comprendre comment vous écrivez. Votre travail est vraiment passionnant et donc on a le temps.
Alors sur la question de ces phrases entières, oui c'est quelque chose qui est pour moi donc une des démarches principales de l'écriture, c'est de réaliser donc ce que moi j'ai fait en lisant Barthes il y a très longtemps, il y a presque 20 ans pendant le début de mes études de littérature, que contrairement à une représentation intuitive qu'on pourrait avoir, écrire, c'est pas mettre des mots sur un réel qui serait préexistant au langage. Écrire, c'est au contraire réussir à dégager une expérience de la couche de poussière et de sédimentation dans laquelle les mots de tous les jours l'ont fait tenir. Et donc l'exemple que prend Barthes, c'est ce fameux condoléance. Je veux écrire à un ami qui vient de perdre un être cher. Mais en fait, si je dis juste condoléance, je dis rien du tout. Le mot a été tellement utilisé qu'il ne veut plus rien dire. Et ça va être... alors qu'il veut dire exactement ce que je veux dire, à savoir je souffre avec toi, je t'exprime notre douleur commune. Le fait que ce mot ait été tellement utilisé, tout à coup, va envoyer le signal inverse. La plus grande froideur, l'absence d'effort, l'absence d'attention. Et donc, il va falloir écrire de manière à ce que l'expérience réelle du deuil et de la compassion puisse ressurgir par-dessous les mots et trouver une expression, dit Barthes, qui soit originale et comme inventée. Il faut trouver quelque chose qui donne l'impression que je suis la première personne à avoir écrit l'expérience en ces termes-là. Et c'est seulement à ce moment-là que l'autre pourra l'entendre. Et c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui prend du temps parce que ça veut dire aller tirer comme ça l'expérience de dessous les mots morts, comme de dessous une couverture très lourde et très comme ça très engonçante si on peut le dire. Et d'un autre côté, réussir à produire l'effort du pas de côté et de l'effort d'originalité sans que ça devienne quelque chose qui apparaît comme de la vanité, sans que ça devienne la roue du pan, parce que sinon dans ces cas-là on perd à nouveau ce que veut dire condoléance. On n'est plus dans le « je souffre avec toi », on est sur le « regarde comme j'écris bien sur la souffrance ». Et écrire, c'est toujours se tenir comme ça sur ce fil du rasoir en ayant peur des deux écueils. Et puis sur la nécessité de la phrase entière, en fait, je cite Arnaud Bertina qui a écrit un livre qui est vraiment très beau, L'âge de la première passe, sur les ateliers d'écriture qu'il a mené avec des jeunes femmes et des filles qui travaillent ou qui ont travaillé comme prostituées au Congo. Et la possibilité d'écrire sur elles, de les faire écrire sur leurs expériences et dans quelle langue, ça amène toute une réaction qui est absolument splendide et qui sous-tend tout ce livre. Et donc il y a ce passage où il dit en fait un mot seul peut accabler et il faut la solidarité de tous les éléments d'une phrase pour réussir à décrire une vie sans la juger, sans la broyer, sans accabler. Et je trouve que l'idée est très belle.
et sur le fait que, donc, sur cette question en fait de se regrouper autour d'un test, si anodin soit-il, ou en tout cas si fédérateur puisse-t-il être indirectement, comme le test de Bechdel ou le test de la lampe, qui est encore plus anecdotique finalement. Le test de la lampe, qui est de dire si on peut remplacer un personnage féminin par un lampadaire, bon, bah, c'est que vraisemblablement le rôle n'était pas très pertinent. Est-ce que c'est une façon de s'approprier une autre façon de voir la fiction et le réel en même temps, en y participant pleinement? Mais est-ce que vous croyez que ça peut mettre en route quelque chose de l'ordre de la connivence?
Alors oui, j'imagine que ça peut mettre en route quelque chose de l'ordre de la connivence, tout à fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça crée des réflexes qui sont plus rapides sur une manière de repérer des schémas dont on ne veut plus. C'est-à-dire finalement le test de la lampe, par exemple, il est extrêmement pratique parce que bah il tient en une seule question. Est-ce qu'on peut remplacer le personnage féminin par une lampe sans que ça modifie l'histoire? Bon, ben, c'est assez simple. Ça peut probablement aussi devenir un très bon jeu de société, je pense. À mon avis, ça se pratique en groupe d'amis. On essaye d'appliquer le test de la lampe à un certain nombre de films ou de livres et on voit si ça modifie l'histoire. Et ça peut être pas mal pour égayer un long trajet en train. Je lance ça comme ça. Et puis c'est l'idée aussi de réaliser et parfois par la négative à quel point on a accepté des choses de la fiction qui sont pas questionnées alors qu'en fait elles sont tout à fait questionnables. L'idée du test de Bechdel, c'est aussi de se dire que si on l'applique à la négative, on voit un nombre d'œuvres absolument colossales dans lesquelles il y a des scènes entre deux hommes qui sont parfaitement nommés et qui parlent entre eux d'autre chose que d'une femme. Alors que l'inverse ne se pratique pas. Ce qui veut dire qu'on grandit avec des représentations qui nous racontent que dans la vie d'un homme, il y a 1000 choses plus intéressantes qu'une femme, mais que dans la vie d'une femme, il n'y a pas de choses plus intéressantes qu'un homme. Et ça, se poser ces questions-là en termes comme ça, un peu rapides, avec trois questions qu'on applique au film, au livre, etc. Et ben moi, je trouve que ça ouvre derrière sur des questions bien plus grandes, de la hiérarchie des vies qui nous est présentée par les fictions qu'on fréquente tous les jours.
Et on y participe quand on laisse les enfants dans une forme d'ignorance, puisque vous comparez l'enfance en fait au Truman Show, que ce livre ne manque pas d'humour, hein, égal à vous-même. Dans lequel vous dites, mais c'est normal qu'après on ait envie de se réfugier dans des fictions, puisque finalement, bah, on a été tout à fait conditionné à y arriver.
Mais ce que je pointe du doigt, c'est le fait que les adultes ont un rapport un peu paradoxal à la fiction. C'est-à-dire que c'est le pays de la fiction, c'est quand même un endroit où on va passer en moyenne plusieurs heures par jour. Mais d'un autre côté, les adultes ont l'impression qu'il faut tout le temps qu'ils soient capables de s'en détacher pour montrer qu'ils sont adultes, alors que les enfants n'ont pas ce rapport. Et c'est quelque chose qu'on va moquer chez les enfants. Ils croient encore au Père Noël. Elles crient pour prévenir Guignol que le gendarme arrive. Ces petits êtres ne sont pas capables de placer la frontière entre la fiction et la réalité. Alors qu'en fait, ce qu'on observe, et donc là je cite beaucoup Françoise Lavocat qui a écrit un livre qui est passionnant sur le sujet qui s'appelle « Faits et fictions », c'est que les enfants ne peuvent pas placer la frontière parce qu'ils vivent dans un monde où le déplacement de la frontière est construit par tous les adultes autour d'eux. C'est-à-dire que si les enfants croient au Père Noël, c'est parce que les adultes leur en parlent tout le temps, que les adultes les poussent à laisser des biscuits sur le bord de la cheminée pour le passage du Père Noël ou des carottes pour les rennes, que les adultes les emmènent dans des supermarchés où il y a des Pères Noël dans les galeries marchandes avec lesquelles on peut se prendre en photo, que les adultes, etc. etc. Donc quand on demande ensuite avec une tendresse un peu moqueuse, ils croient encore au Père Noël, elles croient encore au Père Noël, on fait comme si on n'avait pas construit en fait tout un prolongement des fictions dans lesquelles vivent les enfants qui les empêcherait de réaliser qu'en fait le Père Noël ne peut pas exister. Et donc il y a quelque chose d'assez étonnant quoi dans le fait qu'on construise, mais qui est beau, hein. Enfin, c'est pas un jugement, je dis pas du tout pour le coup qu'il faudrait arrêter de faire ça, mais il y a un temps dans nos vies où les adultes nous élèvent en brouillant la frontière entre la fiction et la réalité. Puis après, il y a un temps dans nos vies où ne pas avoir de notion claire de cette frontière entre fiction et réalité est considéré vraiment comme une marque de folie ou de bêtise ou d'inadaptation au monde social.
Et finalement, ce Père Noël, on continue de le prolonger quand on a un rapport singulier avec des personnages de fiction qu'on considère comme des proches, plus proches encore que certains de nos proches.
C'est ce que je veux dire sur le fait qu'arriver à un certain âge, cette frontière, finalement, l'injonction sociale, elle est de réussir à la tracer très clairement, alors qu'en réalité, elle continue de manière plus discrète à être brouillée pour pas mal de personnes. Et oui, et notamment par la fréquentation des personnages qui deviennent des amis, qui deviennent des proches. Regardez les gens qui, par exemple, regardent ensemble, pas forcément en groupe, mais à un même rythme, chacun de leur côté, une série. C'est des gens qui, quand ils vont se retrouver, vont donner des nouvelles des personnages. Vont se donner entre eux des nouvelles des personnages. Vont dire, mais t'as vu, c'est fou qu'un tel ait fait ça, c'est incroyable qu'une telle ait finalement choisi ceci et pas cela. On en parle comme de connaissances communes. Et je sais plus où je voulais aller avec ça. Si, oui, sur le fait que la frontière est brouillée. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi de manière très très forte, puisque j'ai grandi dans un monde de lecture partagée avec mes sœurs, et donc on se donnait des nouvelles des personnages en permanence. En fait, on se volait les livres, et donc celle qui lisait, qui avait réussi à voler le livre et qui avait lu le chapitre en premier devait donner aux autres des nouvelles des personnages, et on grandissait donc avec des mondes qui s'entrecroisaient, qui s'entremêlaient. Et où, certes, on ne pouvait pas les apercevoir du coin de l'œil, mais les personnages, ils marchaient avec nous sur les routes quotidiennes. Et moi, je ne suis jamais tout à fait sortie de ça, mais je le cache un peu plus parce que j'ai compris que socialement, j'étais à un âge où je devais avoir tracé une frontière précise entre ce qui appartenait au pays de la fiction et ce qui appartenait à mon monde.
Le personnage, ça reste la colonne vertébrale de votre préoccupation, Alice Zeniter ?
Ça reste ma grande histoire d'amour. C'est quelque chose. C'est un élément de la construction narrative qui, pour moi, est central. C'est ce que je raconte dans le livre. C'est j'ai suivi des études de littérature et de théâtre dans lesquelles on me racontait une certaine histoire de l'écriture, de la discipline que j'étudiais. Et cette histoire, elle semblait aller vers toujours plus de déconstruction. Elle allait en littérature vers le nouveau roman et ses épigones. Et puis, elle allait dans le théâtre vers le théâtre post-dramatique. Et donc, on me disait, voilà, plus d'intrigues, plus de personnages, plus de décors, plus jamais de description, plus de ceci, plus de... Et très bien, moi, je voulais bien m'amuser avec tout ça. J'ai lu des œuvres que j'ai trouvées passionnantes, épineuses, étranges et absolument merveilleuses. Mais au bout d'un moment, si j'arrête de penser ces écritures-là en termes téléologiques, comme devant foncer vers ce but de la déconstruction, eh ben, je dois admettre qu'il me manque les personnages. Que si je vais dans le pays de la fiction de manière récurrente, têtue, si j'arrive pas à m'en empêcher, si j'y passe tant d'heures, si j'y ai passé tant d'années de ma vie, c'est pour ces rencontres-là. Et c'est ce que je veux créer quand j'écris et c'est ce que je veux trouver quand je lis.
Et le personnage a changé selon vous ? Il mute, il bouge ? Vous citez par exemple Alain Robbe-Grillet et un très long texte sur la mutation du personnage. Mais selon vous, Alice Zeniter, le personnage, il change ? Il est effectivement devenu moins humain qu'il ne l'était ?
Non, je ne suis pas convaincue par ça. Les manières de créer le personnage, bien sûr qu'elles évoluent. Et elles évoluent aussi parce qu'en fait, les manières de penser le sujet humain depuis la naissance du roman moderne, les deux vont ensemble, c'est-à-dire les outils des romanciers et des romancières quant aux personnages avancent en parallèle avec les manières philosophiques de penser le sujet humain, les manières scientifiques de penser ce qu'est un sujet humain, qu'est-ce qu'on découvre du fonctionnement du cerveau, etc. Et donc forcément et heureusement que les choses changent. Si je me débats un peu avec le texte de Rob Grillet, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, ce que lui appelle personnage pour un nouveau roman, c'est à la fois une sorte de figure héroïque et puis le personnage réaliste du roman du 19e qui arrive tout truffé de caractéristiques, parce qu'en fait, on essaye de le déterminer tout de suite pour donner une impression de réel. Et donc, d'emblée, on lui donne une couleur de cheveux, une date de naissance, un accent, une tenue, un père qui a fait ça, un grand-père qui a fait ça, un buffet en bois de noyer qui est là depuis, etc. Et donc ça, très bien, oui, ça, on peut considérer que c'est daté, on peut ne plus vouloir s'en embarrasser, on peut... Mais ça veut pas dire qu'en fait le personnage est condamné à devenir une sorte de silhouette grise portant uniquement un matricule, comme le raconte Rob Grillet. Et par ailleurs, ces silhouettes grises portant uniquement un matricule, elles sont pas forcément moins humaines ou moins réalistes. Elles correspondent à une fréquentation de nos frères et sœurs humains que malheureusement on connaît assez bien aussi.
Dans votre livre, il y a beaucoup d'annotations. Des bas de page, donc ce que vous appelez des marges aussi. Et au fur et à mesure du livre, vous en donnez des explications un peu différentes, comme probablement parce qu'il y a plusieurs raisons qui font que vous nous emmenez dans une conversation. Vous intitulez cela un livre promenade. Donc on se promène avec vous. En même temps, donc un autre moment, vous évoquez la difficulté de venir d'une famille immigrée et d'être finalement quelqu'un qui doit en permanence frôler l'excellence pour être admis comme étant enfin accepté dans une autre société. Il y a plusieurs raisons qui font que vous écrivez de cette façon-là. Il y a une très jolie raison aussi, c'est que vous dites que finalement c'est une écriture musicale. Alors en réalité... comment ça se passe l'écriture d'un livre pour vous, Alizée Nitter? Il y a trop de choses à dire, il y a des parenthèses. Pourquoi elles ne sont pas directement dans votre texte? Pourquoi vous ne vous l'autorisez pas?
En fait, je me l'autorise et en fait, j'utilise tout à la fois. C'est-à-dire qu'il y a des parenthèses, il y a des incises qui sont entre tirées. Il y a probablement aussi des parenthèses dans les parenthèses, et en plus il y a des notes de bas de page, parce que comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de musical, c'est-à-dire j'ai l'impression que ce sont des formes d'ajout ou de contrepoint, de contre-champ en musique qui se situent pas tout à fait à la même distance par rapport au texte, c'est-à-dire c'est pas la même chose pour moi de dire ok, Ce qu'il y a sur la page, hors parenthèse, c'est la voix principale. Et à cette voix principale vont s'ajouter des petites remarques qui parfois sont comme susurrées à l'oreille. Donc elles sont tout proches, elles sont presque comprises dans la voix principale. Et il y en a d'autres qui sont criées de plus loin. Donc on les entend aussi, mais en fait elles se tiennent à une distance plus grande. Et il y en a d'autres qui sont carrément... comme si une personne arrivait sur le terrain, interrompait la représentation et disait « Non, alors excusez-moi en fait, ce qui se passe, c'est ça. » Et il n'y a plus cette idée que ça s'ajoute par-dessus ou par-dessous la voix principale qui continue son déroulement. C'est une interruption avec tout le côté un peu bouffon que ça peut avoir de créer une interruption. Donc, j'ai envie d'utiliser toutes ces formes possibles pour que ça fasse un orchestre avec le plus d'instruments possible et qui est cette richesse la plus grande possible. Et c'est assez logique de se dire, puisque finalement ça a un rapport à l'espace, c'est-à-dire que ce que je me représente, c'est où sont les voix les unes par rapport aux autres et par rapport à l'oreille du lecteur ou de la lectrice, et ben ce que je vais utiliser pour travailler ça, c'est l'espace sur la page, en me disant, voilà, où est-ce que je situe les choses, qu'est-ce que la parenthèse crée comme espace par rapport à un tiré, qu'est-ce que la parenthèse crée comme espace par rapport à un tiré par rapport aux notes de bas de page, quelle taille de police on met aussi, c'est quelque chose sur lequel on a pas mal réfléchi avec mon éditrice, c'est-à-dire les notes de bas de page, traditionnellement, elles sont en tout petit. Mais alors, en tout petit, ça donne aussi l'impression d'une sorte de chose susurrée, pas susurrée, mais chuchotée. Moi, ça me donne l'impression que ça doit être lu en chuchotant et très vite. C'est-à-dire que ce serait une interruption, mais qui dirait « Oui, alors en fait, il faudrait absolument que je vous explique, c'est quand je dis Chris Kraus, je parle machin, et quand je dis Chris, c'est le personnage, donc mon explication n'est pas claire. » Et donc, il fallait trouver une police qui permette de ne pas donner ce signe-là de lecture, tout en restant une note de pas de page, parce que si les deux commençaient à se confondre complètement, c'était, enfin, il n'y avait plus de moyens de guider dans l'exercice de la lecture.
Et dans ce cœur, il y a aussi finalement plusieurs façons de dire, et pas seulement plusieurs propos à dire, puisque votre écriture, elle est assez grave, elle est très sérieuse, elle est profonde. En même temps, elle est incroyablement drôle. C'est-à-dire que vous arrivez à nous faire rire avec des choses qui sont quand même pas toujours hilarantes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez en vous cette capacité à pouvoir, quoi, pouvoir faire mouche, finalement, avec un bon mot qui réussira en même temps à raconter en une seule phrase la profondeur d'un vrai problème, ou c'est parce qu'il y a ce cœur que vous pouvez vous le permettre?
Je pense que le cœur permet ça, bien sûr, c'est une certitude, mais il y a aussi une volonté au-delà de cette forme chorale que j'entretiens quasiment avec, d'abord avec moi-même et puis aussi avec tous les auteurs et les autrices que j'invite et que je cite. Et avec qui je fais un peu famille le temps du livre. Y a une volonté de pouvoir mêler les différents styles. Quand on disait au début, c'est-à-dire c'est un livre, je ne veux pas le définir autrement que comme un livre, je ne peux pas le définir comme un essai, parce qu'il y avait par exemple une volonté d'avoir des moments qui soient une écriture extrêmement personnelle, à la première personne, qui soit un partage d'expériences sensibles, et puis à d'autres moments, toujours très loin de l'essai, cette envie de faire le pitre avec ce que je suis en train de raconter. Soit parce que ce que je suis en train de raconter est trop lourd pour que j'arrive à en parler sans faire le pitre, et que j'en ai besoin, en fait, de ce pas de danse, de ce pied de nez, j'en ai besoin pour réussir à nommer ce que je suis en train de nommer. Soit que je me laisse emporter par la jubilation qu'il y a à partager des savoirs et à faire des découvertes, qui est là encore une joie que je relie énormément à l'état d'enfance, que j'ai pas perdu depuis, mais ça, voilà, cette excitation qu'il y a à découvrir quelque chose de nouveau et à pouvoir le partager, le prêter, et donc parfois, voilà, ce ton très léger, il est simplement celui de ma voix perché un octave plus haut, parce que je suis dans l'excitation de dire « Mais venez, on va tous faire ça ensemble, c'est génial ! Qui aurait cru qu'il y avait ça derrière la porte ?» Et donc, je voulais mêler tout ça dans le livre et pas me cacher derrière un état unique, ou pas m'abriter derrière une posture professorale pour qu'on me prenne au sérieux. Je crois qu'il y a ça aussi, que j'ai fait ça pendant 20 ans. Et soit on me prend assez au sérieux maintenant, soit j'ai diminué mon syndrome de l'imposteur. Mais c'est plus si important pour moi de me déguiser en quelqu'un qui peut être en permanence prise au sérieux. J'arrive à croire que je peux écrire en faisant des plaisanteries stupides et des notes de bas de page comme des interruptions intempestives, et que ça nuira pas à mon travail.
Est-ce que vous avez une jubilation permanente à l'écriture, quoi qu'il arrive? C'est-à-dire que quand vous commencez un livre, vous avez beaucoup à dire, vous découvrez en cours de route, mais de toute façon, pour le coup, vous n'êtes pas dans cet effort et dans cet exploit de monter l'Everest, mais au contraire, dans un grand bonheur et un grand plaisir, même si ça reste un Everest à monter, parce qu'il faut quand même écrire un livre. Mais est-ce que vous avez, vous, une approche presque de plénitude et d'enthousiasme au moment de l'écriture?
Alors, jusqu'en 2017, j'aurais répondu oui, bien sûr. Et c'est quelque chose qui a changé quand j'écrivais comme un empire dans un empire. C'est pour ça, c'est pas anodin, en fait, oui, que ce soit l'écriture de ce roman-là qui ait lancé un cycle de réflexion sur le récit et ses structures et son histoire, etc. Parce que pour la première fois, j'ai eu du mal et j'ai eu mal. C'est-à-dire, pour la première fois, l'écriture a été pénible. Et c'était, en même temps, dans cette pénibilité, dans cette souffrance, dans ces doutes, il y avait plein de questions qui naissaient, c'est-à-dire de me dire pourquoi est-ce que c'est si dur que ça d'écrire une histoire qui n'est pas de point culminant ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'écrire une histoire qui n'est pas de résolution ? Pourquoi c'est si compliqué d'écrire une histoire qui met en scène un homme et une femme qui n'ont aucune histoire d'amour ? Pourquoi je ne sais pas faire autrement alors que j'ai toujours été persuadée que je savais faire autrement et que les productions majoritaires qui répétaient les mêmes formes m'ennuyaient et que donc c'était bien la preuve que moi j'avais d'autres outils à disposition. Et non. Et dans cet aveu de faiblesse qui était ma peine à écrire autre chose, se sont engouffrées toutes les questions qui ont d'abord donné « Je suis une fille sans histoire » et puis qui donnent aujourd'hui toute une moitié du monde. C'est-à-dire une volonté de m'interrompre, quoi, vraiment d'arrêter de produire des récits et des fictions pour réfléchir à ce qui s'était mal passé et pourquoi est-ce que l'écriture, qui avait été un bouillonnement joyeux et oui, il y a une sorte de chose que je pratiquais quasiment dans le rire, en fait, dans le rire triomphal de la maîtresse des marionnettes qui réussissait à faire bouger comme ça tout son petit monde. Pourquoi, quand je racontais pas une même forme d'action, voilà, pourquoi j'avais mal à en pleurer certains soirs. Et donc c'était formidable de pouvoir s'arrêter, de pouvoir dire je vais analyser ce qui s'est mal passé et pourquoi je bloque. Et je vais en revenir à la théorie littéraire à laquelle j'ai arrêté de consacrer un temps significatif quand j'ai quitté l'université. Et donc avoir cette chance aussi de pouvoir replonger dans la théorie, dans les livres, et de pouvoir apprendre et transmettre plutôt que de créer en permanence, c'était merveilleux.
Et ce livre, vous le terminez sans le terminer sur la question de la fin. De la fin de l'histoire, de la fin du livre. Et là, quand je vous entends, j'ai l'impression aussi que de toute façon, il n'y a pas de fin. Même à cet échange, il n'y aurait pas de fin, dans le sens où vous êtes en chemin. Je le disais tout à l'heure, vous êtes une chercheuse aussi. Et donc, il n'y a pas de fin, puisque à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez continuer d'écrire probablement une histoire comme un livre, peu importe, et vous ne le savez peut-être même pas encore, puisque vous continuez de chercher, vous pensez.
Oui, et le livre en fait lui-même, il évolue. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est visible pour les lecteurs et les lectrices. Enfin, en fait, eux ont le même processus, mais de leur côté, et du coup, ça reste invisible pour moi. Mais moi, toute une moitié du monde, je continue en fait, alors que j'ai rendu mon bon à tirer et que l'ouvrage est parti à l'imprimerie il y a plusieurs mois, je continue à l'augmenter, à le réviser. C'est-à-dire, ce livre, il n'est pas fini parce que mes recherches ne sont pas finies. Et pas quotidiennement, mais de manière récurrente, en fait, je tombe sur des livres, sur des passages dont je me dis « Ah oui, mais ça... » Ça, si je l'avais lu avant, je l'aurais incorporé à ma réaction. Ça aurait été génial. Et je vais pas faire comme si ma réflexion s'était arrêtée, parce que le livre papier existe et que du coup ça bloquerait tout mon procédé de réflexion. Non, dans ma tête, j'intercale des pages à celles que j'ai écrites. Je continue à augmenter ce livre, à chercher d'autres formes de récits, à me laisser emporter par des petits ruisseaux vers d'autres territoires de fiction que j'ignore. Et donc oui, évidemment, finir un livre comme ça, c'est pas possible. C'est plus, disons, déterminer des temps et des priorités, d'une certaine manière. Pendant que je l'écrivais, c'était ça qui prenait la majorité de la place. Et les rêves de fiction que je pouvais avoir, ben, se déroulaient en arrière-plan. C'était les petites voix dans l'orchestre et le solo, c'était la théorie. Et maintenant, le rapport de force s'inverse. C'est-à-dire maintenant, je peux me remettre à écrire de la fiction, mais toutes les réflexions théoriques, elles continuent à être là. C'est les petites voix d'un cœur murmuré qui vont venir nourrir ma pratique de l'écriture et du prochain roman.
Bon, alors là, pour le coup, on va être obligé de finir encore une fois, puisque c'est une priorité. Mais alors, évidemment, je suis très impatiente de lire votre prochain livre. Je pense que je ne vais pas être la seule. Je vous remercie beaucoup, Alizée Nitter, pour cet échange qui est aussi brillant que ce livre. Et on espère vraiment vous retrouver très bientôt. Merci encore, Alizée Nitter.
Merci à vous, c'était très agréable.